Émile Bergerat, l'horreur humaine. Ils débouchèrent dans des bois dans le village. Sur un brancard d'ambulance, quatre d'entre eux portaient le cadavre de l'officier qu'ils déposèrent sur la dalle de la fontaine au centre de la place, à mi-côte devant l'église, où leur major lui lava les cheveux et la barbe rouge de sang. La balle du franc-tireur s'était logée en plein front, comme dans un carton de cible. Le coup décelait l'embuscade, mais ne signait pas le fusil. Les Bavarois avaient battu futaie, haie et fourrée, et n'avaient trouvé personne. Or, ni en 1792, ni en 1815, ni en 1870, les armées invasionnaires n'ont jamais accordé vertu belligérante aux Freischütz, et l'Allemagne les admet qu'en opéra, la paix régnante. En guerre, elle les fusille. Monsieur le curé parut sous le portail. Il était vêtu de l'aube et de l'étole. Il s'avança, suivi de femmes et d'enfants, vers le capitaine, qui salua fort poliment et s'écarta pour laisser le prêtre délivrer aux morts le viatique. Ce devoir apostolique rempli, le pasteur monta au presbytère, digne et froid, il en tira la porte. Les Bavarois sont catholiques, ils ont droit à la Terre Sainte. L'officier tué fut donc enterré par ses soldats dans le cimetière même du village. Non, c'était sans doute un personnage important. D'outre-Rhin, soit par sa valeur propre, soit par sa lignée, car le capitaine parla devant la fosse faite, et à défaut d'autres verdures, ils y jetèrent des branches d'if et de cyprès arrachées aux sépultures. Puis ils retournèrent camper sur la place autour de la fontaine, sans requérir vivres ni logement, ce qui était assez extraordinaire et plus inquiétant encore. Assis sur la margelle, le capitaine paraissait accablé de tristesse à la fois et de lassitude. Il appela un gamin, extasié par son casque. « Mon petit, lui dit-il en pur français, va me chercher le maire ou l'adjoint, ça m'est égal. » Mais il n'y avait ni adjoint ni maire. Tout le monde était parti à l'armée. Il ne restait que monsieur le curé. « On ne le dérange donc pas, » fit le capitaine en se levant de la margelle. Et le tambour battit dans la nuit qui tombait. Mais en même temps, la cloche de l'église tinta. Le retour sonnait l'Angélus. Recteur songeait l'Angélus lui-même, car il n'avait pas de bedeau, et c'était l'heure. Le capitaine fit un signe. Le tambour s'arrêta et laissa aux airs la voix des reins pacifiques. Son appel ne fit sortir personne des 200 et quelques feux échelonnés sur le coteau, au pied du château des airs éclos. Où le village était lui-même abandonné, où ses paroissiens se terreraient. L'Angélus se tut à son tour, et il s'épandit à un vaste silence. Alors le tambour reprit et roula trois fois. Puis le capitaine, debout sur sa fontaine, énonça lentement dans cette solitude « Ordre de l'état-major allemand, les habitants de la commune ont un quart d'heure pour réunir tous dans les églises paroissiales. Faute de quoi, les meubles, immeubles et récoltes seront livrés à l'incendie. Les femmes et les enfants, excepté seuls de la mesure, pourront se réfugier au château, mais sans leurs animaux domestiques. Cinq minutes après, 11 hommes parurent sur les seuils des chaumières. Et en vérité, il n'en restait pas davantage, tous les valides ayant rejoint leurs crapauds. Du reste, ils en dénoncèrent eux-mêmes, point d'autre. Cette réserve comprenait un octogénaire, deux septuagénaires, dont l'un hémiplégique, un tailleur bancroche et borgne, deux femmes fermiers ou métayers, le vétérinaire reboiteux, un cabaretier, le gendre du boulanger, un sapotier et l'idiot porte-bonheur du village. « Est-ce tout ?» sourit le capitaine. « N'êtes-vous que 11 ?»« 12 !» releva le curé, entré par la sacristie. « Et à présent, que vous nous voyez-vous ? Fermez les portes et les plantons à chacune d'elles, armes chargées, » fut la réponse. Le pauvre prêtre pâlit, car il avait la rigueur implacable du règlement militaire de l'ennemi. « Oui, dit-il, il vous faut une vie en holocauste pour celle de votre officier tué. » « Mais dites assassiné, mon père !»« Eh bien, prenez la mienne, voulez-vous ? Je suis marqué de Dieu pour ce sacrifice. » Le chef bavarois s'était détourné pour dissimuler son émotion. « Je m'y attendais, salua-t-il. Mais outre que les ministres des églises sont sacrés pour nous, il ne s'agit pas d'une vie seulement, monsieur l'abbé, mais de plusieurs. »« Mais que voulez-vous dire ? Galop, trois de ces pauvres gens doivent être passés par les armes. Mais lesquels ? Ceux qu'ils auront choisis eux-mêmes ? Comment eux-mêmes ? Oh, comme ils l'entendront, c'est leur affaire. Ils ont toute la nuit pour en débattre entre eux. Tels sont mes ordres et je vous laisse le soin de les leur transmettre avant de quitter vous-même l'église. Mais monsieur, je suis chez moi, lança le prêtre. Et relevant sa soutane sur la ceinture, il gravit d'un élan les degrés de cœur et s'écria « Aux armes, citoyens, et défendons-nous, Dieu le veut !» mêlant ainsi les deux péants de sa race. Le capitaine haussa les épaules, et l'index tendu dans la direction du château, il dit à mi-voix « Vous oubliez, mon révérend, que là-haut il y a des gages !» Et il sortit. Alors l'horreur régna. La petite nef glaciale sombrait dans l'ombre comme un vaisseau qui coule bas avec ses naufragés. L'un d'eux, le tailleur borgne et fort tordu, réclama de la clarté. « Qu'on allume les cierges de l'autel pour se reconnaître !»« Bon non !» objecta l'un des métayers. « Pour ce qu'on a à faire, inutile d'y voir. » « Mais qu'avait-on à faire ?» L'apparition de la lune dans un vitrail les mit d'accord. Elle les baigna d'une lueur terne où il semblait des ours blancs aux pôles. Machinalement, chacun avait repris à son banc la place dominicale. L'idiot, juché sur le bénitier, riait, les doigts dans le nez, les jambes pendantes. Les trois vieux causaient, assez calmes d'apparence. Pour l'octogénaire, c'était le garde-chasse du château qui avait abattu l'officier. Il devait donc se livrer, mais où était-il à cette heure ? Bon, bien loin pour sûr, comme tous les capons qui, leur coup fait, s'enfuient et laissent les autres payer pour eux. L'hémiplégique s'offrit à le dénoncer au capitaine. Il le prenait pour lui. « Pour le temps qui me reste à vivre. »« Oh, taisez-vous !» l'enjeta le curé, tremblant de honte. Le rabouteux, tirant le geindre, s'était, sans mot dire, à pas ouaté, approché de la tourelle du clocher. « Qui sait si on ne pourrait pas s'échapper à deux ? l'un et dans l'autre, par la toiture. Oh non, 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 tous ou personne, interposa le pasteur héroïque. Et donnant un tour de clé à la petite porte de l'escalier en spirale, il la jeta devant lui dans l'obscurité. Pendant ce temps, concerté pour un autre subterfuge, le cabaretier, le second fermier, le sabotier, essayaient d'enfoncer l'huis de la sacristie qui était clos et scellait déjà leur triple poussée. « N'entrez pas ! Là !» vociféra une voix peur et perdue qui éveilla l'écho des orgues. Et le prêtre se précipita, mais trop tard. Par la baie forcée, ils avaient déjà vu, dressés sur leur matelas, les deux mobiles blessés, la tête bandée et grelottant de fièvre, que cachait et y soignait de son mieux le saint homme. Et la découverte les exalta jusqu'au délire. Sauvés, ils étaient sauvés. Deux des victimes se présentaient d'elles-mêmes à la vindicte allemande, à demi-morte déjà. D'ailleurs, et quant à la troisième, il n'y en a même pas à la désigner. Élu mentalement, dès la première minute, par les 10 justifiés instinctifs, unanimes, c'était évidemment le démenté, qui, à Califourchon, sur le bénitier, s'amusait follement de les voir se démener dans les verdâtres reflets lunaires. Ils appelèrent à grands cris le capitaine. « Notre choix est fait, ouvrez !» Le curé s'était écroulé, les mains jointes, au pied du tabernacle. Car on peut lutter contre l'hyène, le chacal et le tigre, mais point contre la bête humaine, en mal de lâcheté. Il criait. Le capitaine vint, et d'un coup d'œil, il vit et comprit. Il est là, 8 hommes de sa compagnie. Portez ces 2 soldats français au presbytère. Plantez-y le drapeau d'ambulance et prévenez le major. Allez ! Et cela dit, il disparut. Ainsi donc, ils en étaient pour leur infamie. C'était entre eux, les 11, qui devaient procéder à la sélection terrible et nommer les 3 fusillables. Ils s'effarèrent, anéantis. La lune avait tourné et ils laissaient en pleine ténèbres. L'horloge sonna la 2e heure de nuit. Et la question « Mais que va-t-on faire ?» fut renouvelée par le plus gros des 2 métayers. « Ben au sort !» clama le tailleur. « Nos peaux se valent !»« Oh non, non, votons !» proposons le cabaretier. « Mais votez comment ?» objecta le rebouteux. « On n'y voit rien !»« Ouais, c'est vrai !» et tous de réclamer des cierges. Le curé les alluma à tâtons comme aveugle. De grosses larmes lui roulaient sur le rabat. Ils votèrent dans sa barrette sur une feuille de papier de contribution décorée en 10 morceaux et que le cabaretier avait encore dans sa poche. Au relevé, l'octogénaire était condamné par 6 voix et par 4 le sabotier, malheureux homme des bois, qu'il connaissait à peine et pour le voir une fois l'an à la foire les jours de fête de la paroisse. « C'est bon, fit-il, on ira, mais qu'est-ce que je vous ai fait ?» Le vieillard de 80 ans n'y mit même pas le même fatalisme. C'était là un paysan sournois qui passait pour très riche et qui n'en savait pas d'héritier. L'innocent n'a pas voté, ça ne compte pas. On n'était pas 11 dans la baraque. Et sur cette chicane, la querelle s'engagea sinistre autour des sièges qui semblaient brûlés pour un autodafé. Mais l'idiot ne sait ni lire ni écrire. Puisqu'il est le troisième, il n'a pas à désigner les deux autres. Ce n'est pas le jeu, glapissait l'octogénaire. Vous êtes des misérables, nous sommes 11. Le vote est acquis. Oui, non, si. Mais c'est abominable. Pire que chez les loups, on n'a pas encore vu ça sur la terre. Fusiller un vieil homme de 80 ans, grâce, mes amis. Tenez, qu'est-ce que vous voulez que je donne à monsieur le curé? Pour ses pauvres, pour son église, pour vous. Assez, c'est la justice. On a voté, nous sommes en République. Pour dépeindre ce qui se passa dans cette église de village, il faudrait un Balzac ou un Shakespeare. Je ne l'essaierai pas. À la bouche de l'enfer, on n'entend pas de pareilles imprécations. L'octogénaire, le poil hérissé, est-elle un sanglier acculé dans sa bouche, vomissait encore ses juges, le torrent des accusations de vol, d'usure, de débauche, d'assassinat, toute l'histoire de la commune, de père en fils, sur 6 générations. C'était le carnet du diable. Ah oui, ils méritaient d'être tous fusillés par les Prussiens et brûlés vifs, eux, et leur mère, et leurs femmes, et leurs bâtards, toute la vermine et la racaille. L'idiot dansait de joie autour du bénitier. Le prêtre s'était évanoui. À l'aube, le portail s'ouvrit et les 3 victimes furent livrées. Le peloton de 12 fusils était déjà rangé sur place. Le capitaine disposa lui-même et le dos tourné, les condamnés, le vieux qui paraissait tomber en lambeaux, le sabotier qui se signait à tour de bras et le porte-bonheur du village, et rapidement, il leva son épée. Mais plus rapidement encore, une ombre noire avait passé, et la soutane d'un bon pasteur du Christ ramassait toute la décharge. Elle était, il y a 2 ou 3 ans encore, avec ses 12 trous de reliques, dans le trésor de l'église de V, où je l'ai vue.